capitale d'Haïti et des Amériques.
Et merci Anne Mignard, bonjour à toutes et à tous. À la une, ces nouvelles négociations entre le gouvernement vénézuélien et l'opposition. Elles se sont achevées hier à Mexico sous l'égide de la Norvège. Jusqu'ici, elles avaient à chaque fois échoué, mais cette fois, les deux parties ont réussi à échanger. On en parle avec notre invité, Christophe Ventura, chercheur associé à l'IRIS. Les négociations vénézuéliennes à la une aussi de notre revue de presse des Amériques. On en parlera. On parlera aussi des manifestations au Brésil en ce jour de fête de l'indépendance. Et puis le journal des Outre-mer, ce sera avec vous, Odane Agiali. On parlera de l'inquiétude des enseignants à quelques jours de la rentrée scolaire en Martinique.
Et oui Marion, la rentrée avait été repoussée au 13 septembre en raison de la quatrième vague de Covid-19. Et à J-6, le moins que l'on puisse dire, c'est que les syndicats enseignants redoutent cette reprise. Je vous en reparle tout à l'heure.
Et merci, à tout à l'heure, Odane. Le gouvernement vénézuélien et l'opposition se sont rencontrés une nouvelle fois pour des négociations à 2 mois et demi des élections locales dans le pays. Elles se sont déroulées à Mexico sous l'égide de la Norvège. Avec nous pour en parler, Christophe Ventura. Bonjour, vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste de l'Amérique latine. Ce n'est pas la première fois que les deux parties se rencontrent pour discuter. Première question, Christophe Ventura, pourquoi des négociations maintenant ?
Alors, comme vous dites, c'est pas la première fois. En fait, cette négociation qui démarre en allant beaucoup plus loin que tout ce qui a précédé est possible parce que précisément, il y a déjà eu des tentatives avortées qui ont à chaque fois échoué de dialogue entre Nicolas Maduro et les oppositions, parce qu'en fait, il faut en parler au pluriel dans le cas vénézuélien. Il n'a pas réellement une opposition, il en a plusieurs. Alors, d'autant plus que, et c'est ça le fond de l'affaire, eh bien, la situation du pays ne cesse de se dégrader sur le plan économique, sur le plan social, bien sûr, tout ça exacerbé par une pandémie qui a plutôt été bien gérée dans les conditions vénézuéliennes, même s'il y a un rebond depuis quelques mois qui justement exacerbe, je disais, les problèmes sociaux, économiques, etc. Et puis, pays sur lequel les mesures unilatérales des États-Unis en particulier, et secondairement l'Union européenne, eh bien, pèsent aussi lourdement sur l'ensemble du sujet. Donc, tout ça fait que, dans une certaine forme d'impasse, un peu pour tout le monde, hein, parce que finalement, tous les protagonistes voit bien que le chemin est bouché, que la stratégie des uns des autres ne permettent pas d'avancer. D'un côté, le gouvernement de Nicolas Maduro est confronté à tout ce que je viens de dire. Et puis de l'autre, l'opposition qui a tenté à la fois des stratégies de boycott, qui a tenté à la fois parfois des mobilisations sociales, parfois même assez violentes, qui a tenté l'appui international, les États-Unis, etc., la non-reconnaissance de la légitimité de Maduro, etc. Bah, l'opposition a également échoué. Donc c'est peut-être parce que pour la première fois, les deux parties considèrent qu'ils ont plus à gagner à tenter de discuter qu'à continuer de se confronter, que cette réunion, enfin ce dialogue de Mexico est aujourd'hui possible.
Dans ces discussions à Mexico, deux accords ont été conclus, l'un sur la reconnaissance de la souveraineté du Venezuela sur la Guyane et Essequibo, l'autre sur la protection du peuple, notamment dans la crise du Covid, vous en parliez. Donc un accord sur deux points où déjà on peut dire qu'il n'y avait pas vraiment de désaccord. Donc finalement, qu'est-ce que ça dit de ces négociations à Mexico entre le gouvernement et l'opposition, ou les oppositions, comme vous dites ?
Alors déjà, il faut comprendre que le mémorandum qui a été adopté par les parties le 13 août dernier à Mexico, le mémorandum d'entente, c'est son nom technique, prévoit qu'il s'agit d'une négociation intégrale, c'est-à-dire que l'accord existera quand tout les accords sectoriels partiels auront fait accord entre toutes les parties. Donc aujourd'hui, on a deux premiers accords dits partiels. Alors un sur la protection sociale du peuple vénézuélien, grosso modo, et pour être un peu schématique, ça veut dire qu'il s'agit que les deux parties s'accordent pour que le pays puisse faire venir certainement une forme d'aide humanitaire sur l'alimentation, sur les questions de santé et en particulier sur le vaccin. Donc peut-être avec l'arrivée de vaccins qui élargiraient le portefeuille, si j'ose dire, de vénézuéliens de vaccins, qui se résume essentiellement aujourd'hui au Sputnik russe et au vaccin chinois. Peut-être le pays pourra-t-il importer défiant ici d'ailleurs les sanctions et ce qu'elles imposent, des vaccins qui viennent peut-être des laboratoires américains, c'est à suivre. En tout cas, c'est ça que ça veut dire dans un premier temps, cet accord-là. Et le deuxième accord partiel, vous l'avez dit, sur le Guyana, qui là, effectivement, unit toutes les parties, parce que c'est une vieille revendication de souveraineté territoriale du Venezuela sur le Guyana, qui remonte au temps, du colonialisme, à l'époque où le Venezuela était sous pavillon espagnol et le Guyana sous pavillon britannique, donc ça remonte au 19e siècle. Et donc, c'est quelque chose qui réunit tout le monde autour de cette fraction du Guyana, très riche en or et en minerais. Alors, ce sont deux accords qui montrent un processus en marche. Et je crois qu'il faut en voir la portée là, c'est-à-dire que ce processus a démarré. On est au-delà simplement de la mise en place de conditions qui permettent une négociation. Ça, c'était au mois d'août. Désormais, on est rentré dans une négociation. Et il y a des sujets sur lesquels on s'accorde, qui touchent à l'urgence de la situation des Vénézuéliens, et puis à la fois quelque chose qui renvoie à l'histoire longue de la nation vénézuélienne par rapport à un conflit territorial avec un voisin. Et donc, c'est plutôt deux marches qui permettent d'en monter une troisième pour aller vers le reste des discussions compliquées qui aura lieu sur les élections, sur les droits humains, sur également les sanctions, puisque c'est une des grandes revendications du gouvernement, que les mesures de sanctions soient levées par les États-Unis avant toute chose. Donc on va rentrer maintenant dans chemin-là, et ce qui vient d'être fait aujourd'hui permet d'y aller, et tout sera validé à la fin du processus, quand toutes les chapitres auront été négociés et acceptés par toutes les parties. Donc on est dans un processus long.
Merci à Christophe Ventura. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste de l'Amérique latine. Et on continue sur le Venezuela avec la revue de presse des Amériques. Avec vous, Romain Lemaresquier, à la une. Donc le Venezuela avec ses discussions entre le gouvernement et l'opposition. Un dialogue qui avance, mais très lentement, Romain.
Oui, la presse vénézuélienne revient sur les deux accords conclus ce lundi. Si celui concernant la souveraineté du Venezuela sur la Guyane et Essequibo a été simple à conclure, le second n'était pas aussi évident, détaille El Universal dans une de ses tribunes d'opinion. Pour ce journal, il s'agit d'un accord pour la vie, un accord indispensable pour envisager un meilleur quotidien des Vénézuéliens.
Et Romain, El Universal appelle désormais les États-Unis à participer activement à ce dialogue.
Oui, car selon cette tribune d'opinion, le blocus financier et les sanctions imposées au Venezuela sont les principales raisons qui expliquent une telle détérioration de la situation sur le plan sanitaire, alimentaire et social, sans parler de l'économie. El Universal se joint donc à l'appel lancé par le président mexicain Andrés Manuel López Obrador pour qu'évolue la relation entre ces deux pays, une condition sine qua non pour que ces discussions entre autorités et opposition vénézuélienne permettent un retour à la démocratie et à la tenue d'élections libres et transparentes.
Et ce dialogue va continuer avant la tenue des élections municipales et régionales qui se tiendront, Romain, le 21 novembre prochain.
Oui, rendez-vous est pris pour le 24 septembre prochain pour un nouveau round de négociations de 4 jours, toujours prévu à Mexico, annonce La Jornada, des discussions toujours sous l'égide de la Norvège, des Pays-Bas et de la Russie, qui, selon le représentant du gouvernement de Nicolas Maduro, mettent tout en œuvre pour que ce dialogue avance. Il sera notamment question des élections, un sujet qui risque de tendre un peu les rapports.
Direction le Brésil, à présent, qui fête aujourd'hui son indépendance. Le président Jair Bolsonaro a appelé à des manifestations de soutien, mais ces rassemblements devraient se dérouler dans une ambiance très tendue. Des dispositifs de sécurité importants ont été déployés dans les grandes villes pour éviter des affrontements entre manifestants pro et anti-Bolsonaro. À Sao Paulo, correspondance de Martin Bernard.
Jair Bolsonaro a placé la barre très haut. Il a invité 2 millions de Brésiliens à participer à une manifestation monstre pour défendre son gouvernement. Ce serait du jamais vu, dit-il. Objectif, réaliser une démonstration de force un peu plus d'un an des élections, alors qu'il a engagé un bras de fer avec le pouvoir judiciaire et qu'il a évoqué ce week-end la possibilité d'une rupture démocratique. L'opposition a également mobilisé ses troupes en dénonçant la dérive autoritaire du régime. Renato Janin, ancien ministre de l'Éducation et président de la Société brésilienne pour le progrès de la science, redoute des affrontements lors des manifestations.
Il est possible que le 7 septembre, des groupes s'attaquent, même par la force, à des symboles soit du pouvoir de la Cour suprême, des tribunaux, soit qu'ils s'attaquent à des gens de gauche. Il est possible qu'il y ait même des morts.
Jair Bolsonaro a haussé le ton au cours des derniers jours. Il a lancé un ultimatum à deux magistrats de la Cour suprême qui ont décidé de s'opposer à des décisions considérées antidémocratiques. Sur un ton grave et mystérieux, il a également clamé qu'il ne lui restait plus que trois alternatives, la prison, la mort ou la victoire. Martin Bernard, Sao Paulo, RFI.
On s'attend donc à une journée mouvementée aujourd'hui au Brésil et pour certains, Romains, les institutions sont en danger.
Et oui, c'est ce qu'explique le politologue américain Steven Levitsky, co-auteur de l'ouvrage « How Democracy Dies »,« Comment les démocraties meurent » dans les pages du quotidien au Estado de São Paulo. Les attaques contre le pouvoir judiciaire sont la première étape des autocrates pour tenter de rester au pouvoir, affirme-t-il. Le politologue compare les attaques de Jair Bolsonaro aux tactiques employées par Hugo Chavez, l'ancien dirigeant vénézuélien, ou encore à celles du président turc Recep Tayyip Erdogan. Les autorités disent craindre des violences des Taïodilla. Du coup, les juges du tribunal fédéral suprême, au cœur d'un bras de fer avec le président et sa famille, vont faire l'objet de mesures de sécurité draconiennes. La sécurité du bâtiment sera également renforcée, tout comme de nombreuses autres institutions.
Et les partisans de Jair Bolsonaro n'ont pas attendu cette fête de l'indépendance pour commencer à manifester.
Oui, c'est ce qu'explique la Folha de São Paulo dans son édition du jour. Ses partisans ont même bravé le blocus imposé par la police militaire dans le district fédéral de Brasilia et ont envahi l'esplanade des ministères ce lundi. Des moments de tension durant lesquels un petit nombre de policiers tentaient de raisonner les manifestants qui voulaient se rendre devant le tribunal fédéral suprême. Une situation qui s'est calmée vers minuit, explique le quotidien qui dit s'attendre à des débordements, même si les manifestants pro-Bolsonaro ne seront pas dans la même zone que ceux qui souhaitent dénoncer une dérive autocratique du président brésilien.
Et enfin, Romain, avant de nous quitter, direction le Salvador qui va devenir aujourd'hui le premier pays au monde à autoriser le bitcoin comme monnaie légale à côté du dollar américain.
Et ce, malgré les peurs et le rejet qu'inspire cette mesure au sein de la population, détaille El Diario de Hoy. Plus de 70% de la population n'en veut pas, selon ce quotidien. Un changement qui intervient dans un pays dont l'économie peine à se récupérer de la pandémie et qui va coûter plus de 200 millions de dollars à l'État. Les commerces seront obligés de recourir à cette monnaie très volatile, comme l'explique le quotidien. Ce dernier s'interroge sur les contrôles que souhaitent mettre en place les autorités sur une monnaie virtuelle, décentralisée, mais qui devrait être régulée par les banques salvadoriennes et qui sera soumise au même contrôle concernant le blanchiment d'argent. Les autorités ont quant à elles déjà prévenu, ceux qui n'accepteront pas le bitcoin seront sanctionnés avant ce mardi la Prensa Grafica.
Merci Romain Lemaresquier pour cette revue de presse des Amériques. Et restons au Salvador avec donc ce bitcoin qui devient monnaie légale, une mesure qui n'a pas de sens pour l'économiste Liliane Vega. Elle est aussi conseillère financière à l'ONU.
Notre population n'a pas de culture financière ancrée. On pourrait même nous taxer d'analphabète de la finance. Seulement 37% de la population a un compte bancaire. Des comptes bancaires pour des transactions basiques. Et maintenant, les autorités veulent mettre en place une monnaie virtuelle. Mais la population ne comprend pas. Les gens ont peur qu'au moment d'une transaction, ils se retrouvent perdants, sans savoir pourquoi. La raison principale pour laquelle les gens ne veulent pas du bitcoin, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est et parce qu'ils pensent que cela ne va pas être bénéfique pour eux. Ils ont leur raison. Ils ne savent pas de quoi il s'agit et les autorités ne se sont pas investies pour donner des explications. Malheureusement, les explications qu'a fournies le président à l'occasion d'une conférence de presse les ont encore plus inquiétés. Le président n'est pas parvenu à transmettre un message qui puisse calmer les craintes de la population. Bien au contraire, cela a eu l'effet inverse.
L'économiste et conseillère financière à l'ONU, Liliane Vega.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Comme tous les mardis, on parle de l'actualité haïtienne avec Godson Pierre d'Alter Presse. Bonjour Godson.
Bonjour Marion.
À la une de l'actualité, les préoccupations du Premier ministre Ariel Henry à propos de la dégradation continue de la sécurité dans le pays. Le Premier ministre Godson tente d'assurer la reprise en main de la situation.
Oui, Ariel Henry s'adressait hier en fin de journée à la presse à l'issue d'une réunion du Conseil supérieur de la police nationale. Longue réunion, a-t-il relevé. Une des priorités du gouvernement est de rétablir la sécurité. C'est ce que réaffirme le chef de gouvernement accompagné par le directeur général de la police, Léon Charles. Des dispositions ont été prises à cet effet, déclare Henry. De son côté, le directeur général de la police informe que des opérations sont en cours contre les gangs de la zone métropolitaine qui ont abattu, d'ailleurs, ces derniers temps, 5 policiers. Léon Charles sollicite à nouveau l'appui de la population dans la collecte de renseignements pour la réussite des opérations policières.
Et toujours concernant les questions de sécurité, Godson, le problème, c'est que les bandits se montrent de plus en plus menaçants.
Oui, mais des tentatives d'intimidation et de démonstration de force de chefs de gang sur les réseaux sociaux et tout de suite même après les déclarations des autorités, des menaces directes contre le chef de la police et des agents impliqués dans les opérations annoncées, ainsi que contre des personnalités politiques et des hommes d'affaires. Tout ceci à l'issue d'une journée où la panique a régné dans plusieurs quartiers et même sur la route conduisant vers l'aéroport, des tirs à l'arme automatique, des tirs nourris. Un directeur de banque a été enlevé au centre-ville et dans les faits, ce qui est en relief, c'est l'impuissance des autorités à mesure que la peur grandit dans les foyers.
Et Godson, pour terminer, dans ce contexte aggravé par la crise humanitaire causée par le séisme du 14 août, dans le sud, la rentrée des classes est retardée.
Oui, la ministre à l'Éducation nationale, Marie-Lucie Joseph, confirme en effet que la rentrée des classes se fera le 4 octobre dans les départements frappés par le séisme et le 21 septembre dans le reste du pays. Une commission interministérielle est créée pour gérer la situation. Rappelons que 171 écoles publiques et privées sont complètement détruites dans le sud et 566 autres endommagées selon un dernier bilan.
Et merci Godson Pierre, je rappelle que vous êtes le directeur d'Alter Press.
Le journal de l'Outre-mer.
On vous retrouve, Odan Agiali. Alors que la quatrième vague de Covid-19 sévit toujours en Martinique, les enseignants redoutent la rentrée scolaire.
Oui, c'est finalement lundi prochain, le 13 septembre, que les élèves du primaire et du secondaire doivent reprendre les cours en Martinique. Mais à 6 jours de l'échéance, de nombreux enseignants dénoncent les errements du rectorat dans la gestion de la crise. Des craintes révélées dans une étude du syndicat SEUNSA. Les précisions Martinique la première de Pedro Monerville.
Les personnels de l'éducation ne cachent pas leur angoisse vis-à-vis des conditions énoncées pour ce nouvel exercice. Beaucoup sont pessimistes et se disent stressés, fatigués, voire très inquiets quant à un risque d'infection au sein même des établissements. Ils réclament le fait que des mesures soient prises et cela de manière immédiate. Marie-Michel Toussaint, secrétaire générale du SEUNSA.
Il y a un certain nombre de demandes qui émergent, comme par exemple l'étude d'impact sur la santé des personnels. Nous n'avons pas de médecine du travail, alors ils demandent quand même qu'ils puissent bénéficier au moins d'une visite médicale dans l'année. Ils demandent aussi d'être accompagnés psychologiquement.
Une enquête qui se veut aussi force de proposition. Près de 500 ont été émises à ce jour. Elle concerne notamment les conditions d'apprentissage, mais aussi la santé des élèves.
Nous demandons également la réunion du Conseil de l'Éducation nationale parce que nous disons que, bien sûr, il y a des spécificités dans notre académie, puis aussi qu'on puisse réfléchir à comment enseigner. En 2021, en Martinique, il faut d'une part aussi recruter. On est dans l'opacité, c'est-à-dire que nous ne savons pas quels seront les personnels qui sont effectivement en poste.
Les enseignants font leur pré-rentrée ce mercredi, une première approche du terrain qui va sans doute déterminer leur posture à venir.
En Guadeloupe, la décrue de l'épidémie de Covid-19 semble se poursuivre, même si les chiffres des contaminations restent élevés. Depuis vendredi, on compte toujours plus de 200 cas confirmés par jour. Et depuis hier, un vaccinobus sillonne le territoire pour inciter la population à se faire vacciner. Première halte à Trois-Rivières, où les avis sont toujours partagés sur la vaccination.
C'est bien pour les personnes qui sont intéressées par le vaccin. Moi, personnellement, je ne suis pas intéressée pour l'instant.
Je suis ça, mais personnellement, moi, je ne me sens pas encore prête. Je ne dirais pas que je ne le prendrai pas, hein. Pas tout de suite.
Si vous venez vers la population, c'est peut-être une bonne chose. Savoir si tout le monde est motivé pour. C'est qu'il y a tellement de choses qui se précisent à travers ça, qui se disent et que bon, tout le monde n'est pas encore poussé.
Ah oui, j'ai déjà eu ma deuxième dose. Et s'il faut 3, j'en prendrai 3. S'il faut 4, j'en prendrai 4. J'ai 73 ans. Je prends plein de médicaments. J'ai beaucoup d'handicaps. Mais on m'a vacciné, je n'ai rien senti. Je suis toujours vivant.
Des propos recueillis par nos confrères de Guadeloupe la première. Et puis c'est cet après-midi que les députés doivent examiner le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans les territoires d'outre-mer. La mesure pourrait être prolongée jusqu'au 15 novembre, Marion.
Merci Odan Agiali pour le journal des Outre-mer et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à Claude Battista à la réalisation, à Véronique Guémard à la réalisation en chef. On se retrouve demain pour une nouvelle édition dès 13h10, temps universel. Vous pouvez nous retrouver à toute heure sur notre site rfi.fr. Dans 30 minutes, nouvelle édition d'information. Elle sera présentée par Gaëtan Plenet. Très bonne journée à vous sur la Radio du Monde.
RFI. Du 28 août au 12 septembre, découvrez Visa pour l'image, le